infiniment triste qu'on suit maintenant depuis près d'un an. Près d'un an, je dirais, parce que c'est à peu près à ce temps-ci de l'année, il y a maintenant un an qu'on en a entendu parler, puis de façon là, beaucoup plus importante. Vous avez probablement lu quelques articles à ce sujet-là dans les derniers jours. C'est l'histoire de Toufik Benhamish, ce père de famille qui était en voyage à Cuba, à Cayo Coco, avec sa femme et ses deux filles en juillet 2017, et qui, à leur dernière journée de semaine de vacances, ils ont décidé de louer une petite embarcation pour aller faire un tour dans l'eau finalement. Et puis c'était possible de faire ça à Cayo Coco, comme c'est possible de le faire un petit peu partout. On loue des bateaux, des embarcations, et puis on peut faire des activités. Ça coûte un frais supplémentaire, mais ça fait changer d'air un petit peu de faire de la piscine puis de la plage toute la semaine. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Et est arrivé, malheureusement, un accident, là. C'est tout à fait accidentel. Monsieur Toufik Benhamish, qui était aux commandes du bateau, a fait une manœuvre qui n'était pas la bonne et le bateau a foncé sur un quai où se trouvait une jeune Ontarienne, si je ne me trompe pas.
Une mère de famille.
Oui, une mère de famille qui s'appelait Jennifer, je pense. Et puis, elle est malheureusement décédée. Et depuis juillet 2017, donc depuis cet événement-là, Toufik Benhamish est à Cuba encore. Il n'a jamais pu revenir au pays. Et les développements dans les derniers jours, ben, c'est que malheureusement, il risque d'y être encore pour 4 ans. Pour en parler, on va aller rejoindre sa femme qui va nous expliquer un petit peu toutes les étapes de cette histoire-là. Elle s'appelle Kaina Bensadi. Bon matin, Mme Bensadi.
Bonjour, Mme Crête.
Alors, Mme Bensadi, on va recommencer du début. J'ai fait un petit peu une introduction. Tout ça a commencé en juillet 2017. Pouvez-vous nous raconter exactement qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse journée-là avec l'embarcation que vous aviez louée?
Oui, pour corriger un petit peu votre introduction, oui. Nous n'avons pas vraiment loué de bateau. Nous avons acheté une excursion, un combo de plusieurs activités, incluant une balade à cheval, la visite d'une ville, des choses de tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme font n'importe quel touriste qui va à Cuba pour des vacances. Donc, oui. On a acheté un combo et dans le combo, la première station, c'était de prendre un bateau d'un point A à un point B pour se rendre sur l'île faire la balade à cheval.
Okay.
Mon mari a pris en effet les commandes du bateau, mais n'a jamais fait de post-manœuvre comme vous l'expliquez dans l'introduction. En fait, mon mari, tout ce qu'il a fait, c'est à peine prendre les commandes du bateau, tourner en direction du guide, mais le bateau qui était en surcharge, parce que le certificat de navigation avait été violé, il pouvait porter le poids de seulement 2 personnes. Okay. Il portait le poids de 4 personnes et le poids n'était pas équilibré sur le bateau. Donc, les spécialistes disent que c'est pour ça qu'il a continué de tourner de façon disproportionnée parce que la surcharge a changé le comportement du bateau. Donc, mon mari n'a pas eu le temps de prendre le contrôle du bateau pour en perdre le contrôle. Ceci s'est déroulé immédiatement à la sortie du quai et le bateau a fait un U-turn vers le quai, a fait une course donc vers le quai, a percuté le bateau de Madame Anne-Marie Nice qui attendait son tour pour démarrer et le bateau a volé suffisamment haut dans les airs pour la blesser. Et on a atterri tout en famille sur le quai. Madame Nice est malheureusement décédée effectivement de suite de ses blessures.
OK. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Disons, cette journée-là, là, les heures qui ont suivi cet événement-là, au niveau des autorités, qu'est-ce qui s'est passé?
Écoutez, on nous explique qu'on doit rester sur place, attendre le procureur. On nous a interrogés et ensuite on nous a expliqué que, en fait, mon mari ne pouvait pas quitter pour les besoins de l'enquête. Donc, c'est à partir de là que notre cauchemar commence. Puis, nous, au départ, on fait confiance à la justice cubaine. On n'a aucun a priori négatif. Je veux dire, mon mari, j'étais là. Mon mari n'a rien fait. Je veux dire, n'a rien fait pour occasionner cet accident-là. On comprend rien. Au début, on est sous le choc. On est pris dans un pays étranger. On comprend pas un traître mot de ce qu'ils nous racontent. On parle pas vraiment espagnol. Alors, au début, a priori, on se dit c'est normal, il doit y avoir une enquête. Puis oui, c'est normal, il doit y avoir une enquête, mais les conclusions de l'enquête sont détournées parce que les premières conclusions, les toutes premières, là je parle des toutes premières qui ont été données en novembre 2017, ouais, concluaient déjà la responsabilité des 3 employés cubains. Mais suite à un échange entre le procureur puis le juge, là on comprend qu'il commence à y avoir des arrangements. On acquitte on n'acquitte pas, le procureur refuse de porter de charges contre les employés cubains et décide de charger la complète responsabilité à mon conjoint parce qu'on fait face à une justice d'État qui protège une compagnie d'État. La compagnie en charge de l'excursion est une compagnie d'État cubaine.
OK. Et donc là, c'est combien
de...
Oui, allez-y, oui.
C'est de là que commencent les calvaires, dans le fond, à partir du moment où ils ont décidé que c'est étouffé, que le responsable, peu importe les lois, peu importe les preuves, ils continuent. Je veux dire, c'est juste la Cour suprême qui semble être impartiale dans ce dossier, mais la Cour provinciale, il n'y a rien à faire avec ce monde-là. Ils n'ont rien à voir avec la justice et ils portent honte à la fonction de juge et de procureur.
Mais là, on est en juillet 2017 quand tout ça arrive. Les premières accusations arrivent à quel moment exactement?
En novembre.
En novembre. Donc là, entre juillet et novembre, bon, vous êtes retourné ici au Québec comme prévu, j'imagine, le lendemain de l'excursion ou les jours suivants. Votre mari a dû rester là-bas.
Oui, j'avais pas le choix, effectivement. Okay. Je devais ramener mes enfants.
Mais il n'est pas incarcéré, votre mari, au moment où on se parle. Hein? Est-ce qu'il l'a été depuis le début de toute cette histoire?
Jamais. Jamais jusqu'à aujourd'hui. Non.
Il demeure où exactement?
Ben, il loue des chambres dans ce qu'on appelle des casas à Cuba. Il a demeuré longtemps à Ciego de Avila durant la première partie de jusqu'au premier procès, dans le fond. Ensuite, suite à l'appel à la Cour suprême se trouvant à La Havane, il s'est déplacé à La Havane jusqu'au fin des procédures au niveau de la Cour suprême. Lorsque les procédures ont recommencé à la Cour provinciale, il est revenu à Ciego de Avila où il se trouve présentement.
Et là, depuis juillet 2017, en fait, jusqu'à dans les derniers jours où il a été inculpé puis il a eu 4 ans de prison, il faisait quoi de ses journées? Il était en attente de la prochaine étape judiciaire tout le temps, là?
Oui, il y a eu de longs moments d'attente, mais il y a eu aussi de longs moments de discussion et d'essayer de discuter avec le gouvernement canadien, d'essayer de décortiquer toute la preuve, tous les abus, de faire tous les écrits nécessaires, de solliciter le monde. Donc, oui, de longs moments d'attente, mais beaucoup de travail aussi.
Parce que de la façon dont vous racontez l'histoire, il me semble que c'est évident que la faute ne revient pas à votre mari. Je veux dire, premièrement, vous étiez trop de personnes dans l'embarcation pour ce qui était prévu et personne ne vous a jamais dit que vous étiez trop. Deuxièmement, il ne vous avait pas enseigné comment conduire ce bateau-là. Il me semble que tous les éléments sont réunis pour qu'il n'y ait pas d'accusation contre votre mari.
Le deuxième élément que vous mentionnez est aussi un élément important. Dans la loi cubaine qui encadre cette excursion-là, il est clairement stipulé que les guides avaient la responsabilité de faire un exercice pratique et valider la capacité de chacun des conducteurs à conduire le bateau. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est tout autre. Je veux dire, le guide a tenté de nous rassurer de façon disproportionnée. Il nous disait que c'était facile, nous demandait, je le cite, de bien vouloir le croire, jamais rien ne va arriver. Le bateau est très facile à conduire, il suffit de suivre les recommandations verbales. On a eu droit à une fausse représentation, puis c'est scandaleux que Sunwing vende des excursions sans s'assurer que les règles minimum de sécurité soient appliquées auprès du sous-contractant avec lequel Sunwing travaille. Il y a aussi, vous savez, quand vous prenez n'importe quelle activité, qu'il y ait un minimum de risque, on vous soumet un papier qu'on appelle exonération de responsabilité dans lequel on vous explique c'est quoi les dangers s'il y en a face à cette excursion-là. Savez-vous que la juge excuse le fait qu'on ne nous a jamais parlé de ça, qu'on ne nous a jamais donné ce papier-là par le fait qu'il n'y avait pas d'imprimante? C'est, je veux dire, la juge, dans la sentence, a tenté de façon complètement arbitraire et partiale, d'excuser toutes les violations et de falsifier certains faits pour faire porter le chapeau à mon conjoint. C'est grave quand on y pense. Un juge qui falsifie, la juge déforme la façon dont on était assis dans le bateau pour rééquilibrer les poids sur le bateau et tenter par ce fait même de faire tomber la preuve substantielle qui consiste au déséquilibre qui aurait changé le comportement du bateau. C'est scandaleux, c'est une honte. Quand vous avez un juge qui dort durant le procès, vous comprenez que cette cour-là, elle est instrumentalisée pour des intérêts purement économiques qui ont trait à l'argent, qui n'ont aucun rapport avec la justice.
Mais là, j'imagine qu'au moment où la Cour suprême a renversé la première décision, ça vous a donné un brin d'espoir, un vent d'espoir, parce que la Cour suprême, ce qu'ils ont dit, c'est que ça prend un nouveau procès. Et donc là, on pouvait imaginer qu'il y avait eu des erreurs assez graves qui avaient été commises lors du premier procès et que le vent tournerait en votre faveur pour le deuxième procès. Mais là, il y a eu une longue attente de plusieurs mois entre la décision de la Cour suprême et ce qui vient de se produire aussi, là.
Oui, la décision de la Cour suprême nous a donné un véritable élan d'espoir parce que c'est une Cour supérieure. Et puis la Cour suprême, la décision de la Cour suprême démontre clairement et appuie toutes les violations et accepte tout l'argumentaire de la défense et questionne la Cour provinciale sur sa volonté à cacher certains faits pour dresser un certain profil particulier de mon conjoint, questionnent, en fait, leur demande d'aller chercher d'autres responsables. Il était clair à ce moment-là qu'elle leur demandait d'accuser les trois employés cubains accusés au départ dans ce processus-là. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, il s'est écoulé beaucoup de temps. En fait, les procédures ont duré plus longtemps que prévu. Okay. Les délais qui étaient assignés à cette nouvelle enquête-là ont été dépassés de beaucoup. Et on comprend qu'il y a eu des échanges, puis de nouveau des arrangements pour faire porter de nouveau le chapeau à mon conjoint. La Cour provinciale, en fait, ne répond à aucune des questions de la Cour suprême. Quand on y pense, c'est une Cour supérieure. En théorie, elle devrait, mais écoutez, elle doit subir des influences extraordinaires pour pouvoir bafouer de la sorte les recommandations de la Cour suprême.
Et là, on s'entend que le deuxième procès qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant, moi, j'ai lu qu'il avait duré 5 heures seulement. Ici, au Québec, on est habitué pour ce type de procès-là que ça dure à tout le moins plusieurs jours. On fait entendre des témoins. Vous, comment ça s'est passé, le système judiciaire là-bas? Parce que 5 heures pour un procès d'une importance comme celle-là, ça me semble assez peu là, pour entendre tous les parties impliquées.
Écoutez, ce procès-là aurait duré plusieurs jours, le résultat aurait été le même parce que la sentence était écrite d'avance. Quand vous avez un juge qui dort durant le procès, il vous donne le signal qu'il est seulement figurant que la décision est déjà prise.
Oui, parce que c'est vrai, il a vraiment dormi, hein, ce juge-là, ça a été mentionné plusieurs fois.
Oui, il a dormi 20 minutes en présence de la représentante de l'ambassade du Canada qui peut en témoigner. Il a dormi devant tous les présents. Je veux dire, c'est complètement hallucinant quand on y pense. Puis quand vous avez un juge qui ment, qui falsifie les faits pour justifier l'accusation de mon conjoint, je veux dire, ça aurait duré une semaine le procès, elle serait arrivée à la même conclusion.
Et là, donc, ce qu'on a appris, c'est que votre conjoint a été condamné à 4 ans de pénitencier. Là-bas, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est comme ici, il peut sortir au tiers de sa peine ou il doit vraiment compléter les 4 années du début à la fin, là?
Écoutez, je ne suis pas tout à fait experte dans les affaires judiciaires cubaines, puis dans l'application de la sentence particulièrement, parce que je ne détaille pas ces choses-là tant qu'il y a encore d'autres possibilités. Puis nous allons expirer tous les recours possibles jusqu'à temps que mon mari revienne libre.
Qu'est-ce que c'est vos recours à partir de maintenant, à partir du moment où il a été condamné à 4 ans, là, c'est quoi la prochaine étape pour vous?
On fait appel à la Cour suprême on fait appel à la Cour suprême de nouveau. Donc la Cour suprême va avoir, si on se fie aux anciens délais de l'année dernière, va avoir 6 mois pour traiter le dossier et nous donner une décision. Puis si elle invalide la décision de la Cour provinciale, elle pourrait renvoyer le dossier de nouveau vers la même Cour ou une autre Cour provinciale ou prendre tout bedon une décision.
OK. Fait que là, vous avez encore espoir que ça pourrait possiblement être changé. J'aimerais ça qu'on parle maintenant de l'aide que vous avez reçue des gens qui étaient supposés vous aider là-dedans. Je parle premièrement de Sunwing. C'est de eux que vous avez fait que vous avez acheté cette expédition-là. Comment ils ont réagi depuis le tout début de ce processus-là?
Écoutez, Sunwing a tenté de mettre à notre disposition le représentant qui nous a envoyé, qui nous a vendu l'excursion pour servir d'interprète au cours des premières procédures. Puis elle a accepté d'envoyer certaines affaires à mon conjoint les premiers jours, puis c'est à peu près tout. Voilà.
Alors, c'est depuis ce temps-là, vous n'avez pas nécessairement eu d'aide là, de Sunwing?
Non.
OK.
Non.
Parlons maintenant du Canada.
Oui, alors nous avons sollicité le gouvernement depuis le début, puis surtout et en particulier lorsqu'on a compris que les autorités cubaines, en tout cas au niveau de la Cour provinciale, refusaient d'entendre les arguments légaux et étaient rentrés dans des arrangements pour faire porter la responsabilité à mon conjoint.
Okay.
Donc nous avons toujours communiqué avec le gouvernement. Le gouvernement avait dès le départ la preuve de l'innocence de mon conjoint, mais sans rester longtemps dans l'inaction, nous disant qu'il ne pouvait pas interférer dans le processus judiciaire d'un pays souverain. Pourtant, il nous a envoyé des documents, et je citerai peut-être le guide à l'intention des prisonniers à l'étranger. Les prisonniers canadiens à l'étranger, qui stipulent clairement que le gouvernement doit s'assurer que ses ressortissants font face à un processus judiciaire juste et équitable. mais ils ont longtemps refusé. Ils se sont engagés au cours des dernières semaines à nous assurer que mon conjoint allait avoir droit à un processus juste et équitable. Mais c'est pas ce qui se passe en ce moment.
C'est
pas ce qui se passe du tout en ce moment. Puis c'est ce que fait le gouvernement, ce n'est clairement pas assez. Et il doit en faire plus, surtout que par son inaction, il a laissé perdurer cette situation très longtemps. Et par son inaction, il contribue à la sentence d'aujourd'hui.
Alors, vous auriez aimé peut-être une implication plus importante du gouvernement canadien dans toute cette histoire-là?
Clairement, ce n'est pas normal qu'ils ne puissent rien faire. Ce n'est pas vrai. Je n'arrive pas à croire qu'ils ne peuvent rien faire. Vous envoyez 1 million de touristes à Cuba, vous avez une force de pression, vous avez une force d'influence, soit que le gouvernement ne souhaite pas faire quelque chose, soit que le gouvernement n'en fait pas assez, mais c'est pas vrai qu'ils ne peuvent pas faire plus.
Madame Bensadi, est-ce que votre mari présentement est incarcéré à l'heure où on se parle?
Non, il est encore en liberté surveillée.
OK, puis il va l'être pour combien de temps encore, disons, si la sentence est appliquée?
Pendant toute la durée de l'appel.
OK, et ensuite, oui. Si cet appel-là est refusé, il va devoir se rendre en prison, c'est bien ça?
Oui.
Est-ce que vous savez un petit peu c'est quoi les conditions de détention à Cuba? Il s'expose à quoi exactement, votre mari?
Non, honnêtement, je ne connais pas. On apprend au fur et à mesure qu'on s'approche des faits, je veux dire, là, on sait comment fonctionne leur processus judiciaire, on sait comment fonctionnent les processus d'appel, on saura comment fonctionne leur prison si on se rend jusque-là.
Est-ce que ça vous fait peur, ça? L'idée que peut-être que les prisons ne sont pas nécessairement très, très propres, peut-être que les conditions de détention, c'est vrai. En fait, ça doit probablement pas être les mêmes qu'ici au Québec. C'est-tu quelque chose qui vous fait peur, ça, que votre mari pourrait se retrouver dans un établissement comme ça?
C'est pas ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est le niveau d'injustice et la capacité qu'ont certains individus à détruire la vie des autres pour des raisons économiques.
Surtout dans un pays qui est tellement touristique comme Cuba. Là. Je veux dire, vous n'êtes pas la seule famille à se rendre là chaque année pour aller en vacances. Là.
C'est effrayant. Moi, je dis à tous les Canadiens qui nous écoutent de boycotter cette destination-là pour démontrer aux autorités cubaines qu'ils ne peuvent pas abuser des droits d'un de leurs concitoyens de cette façon-là, de façon impunie, et qu'ils ne peuvent pas l'intimider de la sorte, parce que c'est clairement de l'intimidation quand vous violez les lois et que vous condamnez une personne, peu importe ce qu'il a fait ou n'a pas fait.
Madame Bensadi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, puis je vous souhaite bonne chance pour la suite des procédures.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Kaina Bensadi, c'est la conjointe de Toufik Benhamish, ce Canadien québécois qui est coincé à Cuba depuis juillet 2017. Vous avez entendu l'histoire. C'est une histoire d'achat, d'excursion. En fait, à Cuba, ils étaient là en vacances avec leurs deux filles. Ils ont acheté une excursion avec Sunwing qui comprenait un transport par bateau vers une île où on allait faire de l'équitation. Et on n'avait pas tellement enseigné à Monsieur Benhamish comment contrôler ce bateau-là. Et on avait aussi mis 4 personnes à l'intérieur du bateau alors que la capacité, c'est un maximum de 2 personnes. Et il est arrivé un accident qui a causé la mort d'une mère de famille ontarienne. Et depuis ce temps-là, M. Benhamish est face à des procédures judiciaires qui n'en finissent plus. Si je résume un petit peu, il y a eu une première condamnation qui a été interjetée par la Cour suprême, qui ont ordonné un nouveau procès. Et ce nouveau procès-là a eu lieu. Ça a duré 5 heures, au terme duquel il a été condamné à 4 ans de pénitencier. Et là, on s'en va en appel de cette décision-là. Ça dure depuis juillet 2017. Près d'un an et demi qu'il n'a pas vu ses filles, qu'il est à Cuba pendant que sa famille est ici, et surtout qu'il ne sait pas quand il va revenir. Tout ça pour une excursion à Cuba lors d'un voyage à Cayo Coco, là. C'est quand même épeurant. C'est épeurant, sincèrement, parce qu'on en loue tous des excursions quand on va en voyage comme ça, là.
Oui, puis ils ont parlé ils ont parlé aussi au Journal de Québec, puis ils disaient dans l'article que ils ne louaient rien. Ils louaient pas de voiture, louaient pas de scooter. Ils en diraient qu'ils attendent juste une faille pour garder des gens comme ça à l'intérieur du pays. Eux, c'est vraiment leur crainte que ça arrive à quelqu'un d'autre.
Ouais, non, c'est vraiment très, très dommage. J'espère que ça va être une fin heureuse pour cette famille-là, même si ça fait déjà un an et demi que ça dure. Disons qu'il y a bien des choses qu'on a sautées en un an et demi. C'est des anniversaires, c'est des Noëls, c'est des moments en famille qui sont pas là. Et surtout pour une histoire qui, évidemment, on n'était pas là, là. Bon, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je sais pas, mais j'ai tendance à croire tout ce qui a été rapporté jusqu'à maintenant et par les autorités cubaines et par nos médias ici. Alors, à un moment donné, tu dois te dire que c'est ça qui est vraiment arrivé. On parle ici d'un accident, là. Puis on parle pas de...
Puis ce qu'elle nous disait, c'est qu'il y a beaucoup de Cubains qui étaient du côté de la famille, justement.
Oui, absolument.
En disant, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bouge pas? Puis qui étaient solidaires envers eux.
Oui, M. Benhamish raconte que, bon, il vit à Cuba maintenant depuis un an et demi, puis il reçoit beaucoup, beaucoup de support des gens là-bas. Donc, ça doit peut-être peut-être être un baume sur sa plaie de savoir qu'au moins le pays n'est pas contre lui. Et il l'a même dit, il a dit, si c'est pas les Cubains ici le problème, c'est certaines personnes qui ont décidé de protéger. Il faut savoir que la compagnie qui louait ces excursions-là, elle appartient à l'État. En fait, c'est une compagnie d'État. Est-ce que ça change quelque chose pour la décision? Évidemment, je pourrais te le dire parce que je le sais pas, mais c'est certain que ça démontre un certain conflit d'intérêts, il me semble. Il me semble. Alors, ça va être à suivre. Donc, on s'en va en appel de cette décision-là pour cette famille-là. On va voir ce que ça va donner. On devrait avoir des nouvelles dans les prochains mois, mais c'est encore un délai supplémentaire. Alors, c'est bien dommage. Il est 8h20.